Je vais juste essayer de mettre en place la technique si ça va marcher. Ça devrait. Ok. Alors, le thème aujourd'hui que Dieu a mis sur mon cœur, c'est quelque chose de spécial. Mais comme vous voyez, c'est l'épreuve, c'est une expérience qu'on vit tous, plus ou moins. Si vous n'avez pas encore vécu une épreuve, rassurez-vous, ça va arriver. Parce que ça fait partie de notre vie, les épreuves. Je vous ai parlé un petit peu de ma sœur. Bon, ça, c'est une épreuve et il y en a d'autres, plus ou moins grandes. Mais ce matin, je ne suis pas là pour venir vous accabler avec l'épreuve et dire frapper avec une masse sur chacun d'entre vous pour dire c'est terrible. Non. Ce matin, je suis là pour vous encourager. D'accord? Vous encourager. Et juste avant de rentrer dans ce thème passionnant, d'une perspective, je l'espère, nouvelle, pour chacun d'entre vous, on va prier. Seigneur, merci à l'ouverture de ta parole, merci de nous parler. Vraiment, Seigneur, je veux pas être celui qui parle ce matin. Je veux que ce soit toi. Je veux que toi, tu touches les cœurs, toi, tu répondes à chaque besoin, Seigneur, selon les besoins de chacun, Seigneur, à chaque personne ce matin. Et donc, merci de nous encourager ce matin puissamment par ta parole et de nous faire voir, Seigneur, que toi, tu es un Dieu rempli d'amour, même dans les moments difficiles. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. 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 Donc, qui a déjà vécu une épreuve ici? Lève la main. Voilà. Je suis avec un public averti. C'est bien. Vous savez, dans le domaine de la science, il faut sans arrêt éprouver les choses pour tester leur bon fonctionnement. Vous connaissez ça? Et de près ou de loin, moi je ne suis pas un scientifique, mais je sais que la voiture que je conduis, je suis bien content que quelqu'un l'ait testée avant que je m'assoie derrière le volant pour s'assurer qu'elle fonctionne parfaitement. Hein? Et c'est agréable de conduire une voiture qui fonctionne, n'est-ce pas? Et on remercie les techniciens, les ingénieurs, les professionnels, les génies automobiles. Et là, je prends juste la voiture comme exemple, mais on pourrait prendre des tas d'exemples. Et ces personnes, ils testent, ils éprouvent, si je reste avec la voiture, les moteurs, pour garantir un bon fonctionnement, une authenticité. Et Dieu, la façon dont il a de prouver ou de garantir notre bon fonctionnement en tant que chrétien, mais c'est à travers l'épreuve. C'est à travers ce test qui veut garantir qu'on est des chrétiens authentiques et qu'on fonctionne correctement. On ne peut pas savoir si quelque chose fonctionne correctement à moins de l'éprouver. C'est pas possible. On peut supposer que ça fonctionne bien jusqu'à ce que le test arrive, jusqu'à ce que l'épreuve arrive. Et là, les choses sont révélées. Et l'épreuve, je dirais, c'est un petit peu comme un filtre à café. Vous buvez beaucoup de café? Moi, j'en bois pas mal. Et le filtre à café, ça retient quoi? Les impuretés. Ça fait que le café qui va couler, il va être pur, il va être bon. Et l'épreuve, c'est un peu ça pour la vie du chrétien. Ce filtre. Dieu veut filtrer les impuretés de nos vies pour que quelque chose de bon en ressorte. Mais je sais que ici vous avez beaucoup déjà vu ce thème-là, donc je ne vais pas m'attarder sur cet aspect, mais je voudrais qu'on aille ensemble dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, du verset 45, à partir du verset 45. Il faut savoir que Marc chapitre 6, si vous avez l'occasion, lisez-le après chez vous. C'est un chapitre qui est extrêmement chargé émotionnellement. Très chargé d'émotions, ce chapitre. On voit que Jésus, là, est rejeté. Il dit lui-même, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, etc. Qu'est-ce qui se passe aussi dans ce chapitre? Jean-Baptiste, il meurt décapité. Les disciples sont choqués, sont vraiment tristes, et Jésus avec. Il envoie les disciples même annoncer sa parole. En même temps, ils arrivent, ils sont pleins d'émotions, ils racontent à Jésus tout ce qui s'est passé. Ensuite, ils ont ces gens qui suivent Jésus, 5000 personnes et plus. Et les disciples disent, bon Jésus, maintenant il faut que tu les renvoies chez eux parce qu'ils sont trop nombreux, on n'a pas assez pour leur donner à manger, c'est pas possible. Et là, Jésus va faire ce miracle impressionnant de multiplier le peu de choses qu'ils avaient et de rassasier cette foule. Et donc, on est dans un chapitre très chargé émotionnellement. Et là, les disciples, après une longue journée, verset 45, aussitôt après, ça dit aussitôt après, donc après avoir nourri ces 5000 personnes, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et ils voulaient les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Avant de continuer, on va laisser le petit enfant aller dans un endroit un peu plus tranquille peut-être. Voilà, c'est pas grave. Et donc il leur dit au verset 50, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Verset 51, « Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. » Voilà, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque. Et les disciples vont vivre une épreuve. Ils vont vivre quelque chose de vraiment difficile, auquel ils ne s'attendaient pas, puisque Jésus lui-même les oblige. Ils n'ont pas demandé de passer par là. Et on se demande pourquoi est-ce que Jésus les oblige à monter dans ce bateau. Pourquoi Jésus fait ça ? J'imagine un peu la réaction des disciples. J'imagine que ça n'a pas été simple pour que ces disciples y montent. Surtout quand on connaît certains de ces disciples, non ? Pierre, le fort caractère. On leur a dit, mais Jésus, on peut rester là avec toi, on peut renvoyer la foule avec toi, on peut faire des choses. Pourquoi est-ce que tu veux absolument qu'on aille dans cette barque-là ? On n'a pas besoin d'aller traverser. Mais Jésus les oblige et on comprend bien sûr qu'ils ont obéi. Ils ont pris ce pas de foi, ils ont fait confiance au maître. Parfois, Dieu nous met dans des situations, il nous oblige quelque part à passer par des moments. Il nous oblige, il nous fait monter dans la barque et on ne comprend pas tout de suite qu'est-ce qui se passe. Mais ce qui est important, c'est d'obéir. C'est d'obéir. Vous vous rendez compte ce qu'ils auraient loupé s'ils n'avaient pas monté dans cette barque ? Ils auraient loupé quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, au moment même où Jésus leur demande de monter, ils se disent « Mais pourquoi tu fais ça, Jésus ?» Et parfois, on se demande ça dans notre vie. « Mais Dieu, pourquoi tu m'obliges à passer par là ? J'ai vraiment pas envie, quoi. Ça me dit rien. J'ai pas envie. » Et Dieu, il nous fait monter dans la barque. Et la barque s'éloigne du rivage. Et on est un petit peu déséquilibré, en terrain inconnu. Et Jésus, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et on va voir ce matin, qu'est-ce que Dieu fait quand nous, on est dans l'épreuve. Je pense que vous avez beaucoup parler de ça, et peut-être de notre réaction quand on vit l'épreuve, c'est pas toujours évident, on est humain, mais là ce matin j'aimerais vraiment nous encourager avec ce que Dieu fait. Dieu il est à l'œuvre quand on est dans l'épreuve. Souvent on se dit, mais quand je suis dans l'épreuve, Dieu il croise les bras, et puis quand j'en sors, ça y est, il se remet en marche. Non, c'est pas du tout ça. On va voir trois actions du Père lorsque nous sommes dans l'épreuve. Trois actions de Dieu là, clairement décrit dans ce passage, c'est vraiment magnifique. Et on a déjà lu ce passage. Donc première action, on va voir qu'est-ce que fait Jésus au verset 46. Ça dit quoi ? Quand il l'eut renvoyé, donc la foule, il s'en alla sur la montagne pour faire quoi ? Pour prier. Il s'en alla sur la montagne. Donc ça veut dire qu'il avait besoin d'un point culminant, d'un haut point, pour voir ses disciples galérer. Il avait besoin de les voir. Il les voyait. Et en même temps, il s'en va pour prier, alors qu'eux, ils sont en train de se battre avec les éléments. Mais lui, il prie. Il intercède pour ses disciples. Il prie que ses disciples supportent cette épreuve, qu'ils en sortent plus, encore plus forts. Et si vous voulez aller avec moi rapidement, mais Romains 8, verset 27. Qu'est-ce que dit Romains 8, verset 27? Juste deux versets pour confirmer. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Il intercède en faveur des saints. Il intercède en faveur des saints. Hébreux, chapitre 7, verset 25, on connaît aussi. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, qu'est-ce que Jésus a prié? Quels étaient ses mots alors que ses disciples étaient en train de presque mourir au milieu des flots? Quelle était la prière de Jésus? Est-ce que vous avez envie de savoir ça? Moi, je suis curieux. Et on va imaginer l'une des plus belles prières que Jésus a faites, la plus connue dans Jean chapitre 17. Si vous voulez aller avec moi, Jean chapitre 17. Et je vais vous demander d'être attentif pendant que je vais lire rapidement ce chapitre, il n'est pas très long. On va s'imaginer que Jésus prie cette prière alors que ses disciples sont en train de traverser des moments difficiles et qu'il continue de prier cette prière pour nous aujourd'hui, quand nous sommes dans l'épreuve. Et pendant qu'on lit cette prière, je vais vous demander d'être attentif, à regarder les mots, à regarder peut-être plus que d'habitude, parce qu'à vrai, je vais vous poser une question par rapport à un mot ou à une expression qui revient tellement souvent. Donc soyez attentifs, d'accord ? Jean chapitre 17. « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Verset 11, je ne suis plus dans le monde, et ils ne sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur fais connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Magnifique chapitre, Jean chapitre 17. Et j'ai un petit peu disséquer ce chapitre, même si on pourrait passer des heures, mais j'ai essayé de comprendre un peu qu'est-ce que Jésus était en train de prier. Est-ce que vous avez remarqué un mot qui revient souvent dans ce chapitre? Dites-moi. Le monde, exactement. Il est 19 fois dans 26 versets. C'est énorme. Le monde. Et tu te demandes, mais pourquoi est-ce que Jésus insiste tellement sur le monde alors que on aurait voulu qu'il peut-être mette son attention plus sur les choses célestes, mais il est en train de s'adresser à son Père. Mais il insiste sur la puissance du monde, sur le fait qu'on est dans le monde, mais pas du monde. Et vous savez que le monde, dans la Bible, souvent c'est représenté par les flots, par la mer. Et là, en fait, c'est assez extraordinaire, mais Christ, quand il parle à son Père, il est en train de supplier à son Père que l'eau ne rentre pas dans la barque. Que l'eau ne rentre pas dans la barque. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il supplie que le monde ne rentre pas dans le croyant. C'est ce qu'il est en train de prier. Et ce passage est extraordinaire parce que Christ est en train de s'adresser à Dieu. Il voit ses disciples qui sont sur la mer, la barque qui symbolise un petit peu nous les chrétiens, et les flots qui essayent de rentrer dans la barque. Et Christ prie, Jésus dit, s'il te plaît Dieu, ne permets pas que l'eau rentre dans cette barque, que le monde ne rentre pas en eux. Et quand on traverse des moments difficiles, c'est ce que Christ est en train de prier. Il dit, s'il te plaît Dieu, ne permets pas que le monde influence mon enfant. Qu'il puisse s'attacher à moi. Je veux pas que les flots fassent couler le bateau. Voyez un peu ce que Jésus est en train de prier là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup aussi de références à l'unité. Il veut que ses disciples restent un, qu'ils soient unis, qu'ils restent ensemble. Cette fusion. Je ne sais pas si vous avez remarqué une petite expression au verset 23 qui dit « Moi en eux et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. » Ça a l'air d'être une petite expression un peu magique, peut-être un petit peu la recette de ce que le croyant doit faire. Il l'a répété dans Jean 14, verset 20 « Vous en moi et moi en vous. Vous en moi et moi en vous. » C'est extraordinaire. Donc Jésus là, il intercède en faveur de ses disciples et il crie à Dieu que l'eau ne rentre pas dans cette barque, que le monde ne rentre pas dans les croyants. Deuxième chose que Jésus va faire, qui est extraordinaire, il arrive, et voilà, j'ai passé là le chapitre, il intervient dans la tempête. Et oui, il ne reste pas sur la montagne pour prier, mais quand nous passons par des moments difficiles, il va venir vers nous. Et on voit au verset 48, il alla vers eux, marchant sur la mer, marchant sur la mer. Est-ce que ça vous rappelle des personnages dans la Bible dont Jésus, enfin Dieu, est intervenu d'une façon miraculeuse? Est-ce que vous vous en souvenez de quelques-uns? Jonas, par exemple, bien sûr, Jonas. Où Dieu est intervenu dans la tempête, là, c'est encore plus parlant parce qu'il était carrément dans le ventre d'un poisson qui était dans l'eau. On a aussi les trois amis de Daniel qui étaient dans la fournaise ardente. Les trois amis de Daniel dans la fournaise ardente, et là, Dieu est intervenu dans la tempête. Jérémie dans la citerne, vous connaissez un peu l'histoire. Dieu aussi là est intervenu, il a sorti de là. Israël face à la mer rouge, encore une fois, Dieu intervient dans des situations impossibles à gérer pour l'homme. Daniel dans la fosse aux lions, impossible à gérer pour l'homme. Dieu intervient dans la tempête. Et vous savez quoi? Quand Dieu intervient, ça veut dire que il veut qu'on se prépare à marcher avec lui dans la tempête. Vous savez, quand ce quatrième ange, enfin ce quatrième homme est venu dans la fournaise ardente, c'est comme si Dieu était en train de dire, maintenant que vous êtes en train de brûler, il faut vous préparer à marcher avec moi. Et ce quatrième, il est venu dans la fournaise. Et là, ces hommes ont pu marcher avec cet ange, avec Dieu finalement, qui était là avec eux. Et c'est comme si Dieu disait, maintenant que tu es dans la fournaise, il fait chaud, mais prépare-toi à marcher avec moi. Quand tu passes par des moments difficiles, prépare-toi à marcher avec moi. On pense parfois que marcher avec Dieu, c'est que quand tout est simple et tout est beau. C'est facile de prendre sa main et de marcher avec lui dehors au soleil. Mais quand on est dans le feu de l'épreuve, c'est là aussi Dieu nous lance cet appel. Prépare-toi à marcher avec moi encore plus. Encore plus. Abraham et le sacrifice d'Isaac, Dieu intervient in extremis. Il intervient dans la tempête. Quel grand Dieu nous avons. Et là, je veux juste réfléchir avec vous. Dans Jacques chapitre 1, verset 2, si vous voulez aller avec moi rapidement, Jacques chapitre 1, verset 2, on connaît bien, hein. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les diverses épreuves, ok ? Là, on sait bien que c'est facile à dire pour Jacques, bien sûr, d'être dans la joie totale quand une épreuve nous tombe dessus. Mais je vais m'arrêter au petit mot qui précède le mot épreuve. Vous voyez, c'est quel mot ? Les diverses épreuves. Et là, on va aller dans 1 Pierre 4, verset 10. On va faire le parallèle entre les deux. Vous allez voir, c'est magnifique. 1 Pierre 4, verset 10, ça dit « Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des uns des autres les dons qu'il a reçus. » Et toi, tu me dis « Qu'est-ce que ça a à voir avec l'épreuve ?» Oui. « Comme des bons dispensateurs des diverses. » C'est très intéressant parce que c'est un mot qui veut dire… Il a deux sens différents dans ces deux versets précis. D'abord, d'un côté, on a les épreuves qui sont diverses, et là, de l'autre côté, on a les grâces qui sont diverses. Moi, j'aime bien associer l'épreuve avec la grâce, non ? C'est peut-être pas très habituel, mais c'est la réalité. Et en fait, on va voir que diverses dans Jacques chapitre 1, verset 2, regardez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des épreuves multicolores, des épreuves multicolores, de toutes sortes d'épreuves, une diversité d'épreuves. Mais 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, c'est autre chose. Regardez, c'est des épreuves qui sont multiformes. Multiformes, les grâces peuvent s'adapter aux épreuves. Et ça, c'est une promesse incroyable. Quand on voit que Jacques nous demande d'être joyeux quand une multitude d'épreuves nous tombe dessus, même si c'est des épreuves multicolores et qu'elles sont complètement différentes, avec des couleurs complètement différentes les unes des autres. Et Pierre nous dit, oui, mais les grâces de Dieu sont multiformes. La grâce de Dieu est multiforme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'existe pas une seule épreuve que la grâce de Dieu ne soit capable de couvrir. Il n'existe pas une seule épreuve que la grâce de Dieu ne soit pas capable de couvrir. Amen. Et si tu es dans une épreuve aujourd'hui, ou si tu as déjà vécu ça, rappelle-toi des multiformes grâces de Dieu. Sa grâce, sous tellement de formes différentes, elle peut s'adapter, elle peut couvrir une multitude d'épreuves, même des épreuves multicolores. Il n'existe pas une seule épreuve que la grâce de Dieu ne soit pas capable de couvrir. Ça, c'est une promesse extraordinaire. Et on continue dans Marc chapitre 6. Qu'est-ce qui se passe ? Jésus, il avance, il vient à leur rencontre. Et je ne pense pas que Jésus avait prévu cette réaction de ses disciples. En tout cas, on va voir ça. Au verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ. Est-ce que vous savez ça représente quoi ça ? C'est quoi à peu près l'heure ? À peu près 3 heures du matin. Quatrième veille de la nuit. Donc on se dit, Quand Jésus a renvoyé la foule, c'était évidemment avant la nuit, quand même, pour qu'ils voient un petit peu où est-ce qu'ils vont. Donc, je sais pas, peut-être 19h, 20h. Et là, il attend 3h du matin pour aller à leur rencontre, quand même. Imaginez les disciples, leur état d'esprit. Imaginez. Qu'est-ce qu'ils pensent là? C'est fini, quoi. On va mourir. Jésus va continuer sans nous ou il va appeler d'autres disciples. 3h du matin. De 8h du soir ou 9h peut-être jusqu'à 3h du matin, ça fait beaucoup, hein. Ça te paraît interminable, surtout quand la mer se déchaîne et le vent souffle. Pourquoi est-ce que Jésus choisit d'intervenir à 3h du matin? On ne sait pas. Parfois, quand Dieu tarde à intervenir dans notre vie, quand on vit des moments difficiles, on ne sait pas. Pourquoi Dieu, tu choisis d'intervenir à 3h du matin alors que tu aurais pu le faire à 8h du soir? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais Dieu, dans sa sagesse, il a décidé d'agir à cette heure-ci. Et donc, à la quatrième veille de la nuit, Jésus a bien prié. Il a dû bien se ressourcer dans la prière. Et je pense qu'il a prié tellement fort que ses disciples, de toute façon, sont toujours en vie. Ils sont toujours en vie, ils luttent encore avec les éléments. Il alla vers eux, donc verset 48, marchant sur la mer. Et il y a ce petit détail que souvent on passe de côté. Et il voulait les dépasser. Il voulait les dépasser. Pourquoi est-ce que Jésus voulait dépasser les disciples? Je pensais qu'il voulait aller vers eux, parce que ça dit qu'il va vers eux, mais il voulait les dépasser. Donc évidemment, il a dû changer ses plans, Jésus. Pourquoi? Il a dû s'adapter à la réaction de ses disciples. Regardez. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Imaginez Jésus avec sa grande toge ou sa grande robe, enfin tunique de l'époque, marchant sur la mer. C'est vrai qu'à 7h de la nuit, c'est un peu flippant. On comprend leur réaction. Je pense que j'aurais été pareil. Ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire que tous, ils se sont mis à parler entre eux. Ils ont dit, est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu vois ce que je vois? Ok, d'accord. Donc si tu vois ce que je vois, ça veut dire que j'hallucine pas. Ça veut dire que c'est vrai. Je suis pas en train d'halluciner que c'est un fantôme. Parce que s'il y a un disciple, il dit, est-ce que tu vois ce que je vois? Non, pas du tout. Ah, d'accord, bon, j'hallucine. Mais là, tous, ils le voyaient. Est-ce que tu vois ce que je vois? Regarde, il y a un mec là. T'es au courant? Oui, je vois. Et ils commencent à paniquer, à crier. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils hallucinent pas, qu'ils sont pas. Imaginez à 3h du matin à lutter contre les éléments, ils se disent on est trop fatigué, et là on commence à. Mais non. Ils se rendent compte que c'est quelque chose de. C'est quelqu'un de réel qui s'approche. Et donc Jésus, il doit changer ses plans. Il voulait les dépasser. Et combien de fois, quand on passe des moments difficiles, bien sûr, il intervient dans la tempête, mais. Parfois, Jésus, il est tellement bon qu'il s'adapte à nos réactions purement humaines. Et les disciples, ils commencent à crier comme des filles. Ah, ils avaient peur quand même, hein. J'aurais bien voulu être là pour voir. Mais en tout cas, ils avaient très peur. Bon, les femmes aussi, vous auriez eu peur, je pense, hein. Entre nous. Mais ils crient. Et donc Jésus, qui voulait les dépasser, eh ben, il change de direction et il va vers eux. Il va vers eux parce qu'il se rend compte qu'ils ont peur. Donc il veut pas les laisser dans leur peur. Et parfois, nous, quand on est dans des moments tellement durs, on a tellement peur. Et Dieu, il veut faire des choses dans notre vie. Il veut nous dépasser. Il veut aller au-devant de nous. Il veut marcher au-devant de nous. Il veut ouvrir les portes devant nous. Mais on a tellement peur qu'il vient vers nous. Il nous rassure. Il change ses plans par amour pour nous. C'est fort, ça. Donc, par amour pour ses disciples, Jésus, il va pas juste les dépasser et les laisser dans leurs cris. Aussitôt, Jésus leur parla. Il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, c'est le même c'est moi qu'il a dit dans ce fameux jardin, quand ils sont venus pour l'arrêter. Il m'a dit, vous vous rappelez de la question des soldats? Et Jésus leur demande, qui cherchez-vous? Et il dit Jésus de Nazareth, et qu'est-ce qu'il répond? Il dit c'est moi. Et là, ils tombent tous par terre. C'est moi. Et là, c'est le même c'est moi. Il dit c'est moi, je suis celui qui suis, je suis Dieu. C'est moi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et dans la tourmente, dans les vagues, dans le vent qui souffle, Dieu vient vers nous. Et il dit c'est moi, je suis celui qui suis. N'aie pas peur. N'aie pas peur. T'as pas besoin d'avoir peur. » Puis il monta vers eux dans la barque. Et là, ça nous parle de la merveilleuse patience de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors non seulement il intercède en notre faveur, quand on est dans des moments difficiles, il intervient dans la tempête, gloire à Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait troisièmement? Il installe sa paix. Il installe sa paix. Et là, c'est au verset 51. « Il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. » Le vent cessa. Le vent cessa. Et on connaît bien ces versets, Jean 16, 33. C'est personnellement mon verset préféré. Et ça dit quoi? « Je vous ai écrit ces choses afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ayez la paix. » C'est comme si Jésus, il reprend ses disciples et aujourd'hui, il nous dit à nous, tout ce que j'ai écrit, tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu, c'est pour que vous ayez la paix en moi. Tout ce que j'ai dit, mon seul but, c'est pour que vous soyez en paix. Après, il est lucide, Jésus. Il dit, bien sûr que vous aurez des tribulations. Bien sûr que ce ne sera pas facile. Vous les aurez. Mais prenez courage. J'ai déjà vaincu tout ça pour toi. J'ai vaincu tout ça. Et quand il dit « j'ai vaincu le monde », il veut parler aussi de la plus grande puissance qui tient ce monde lié aujourd'hui par le péché aussi, c'est la mort. La mort. Quand Jésus laisse ses disciples sur la terre et il dit « tout pouvoir m'a été donné, allez, faites des disciples !»« Tout pouvoir m'a été donné », ça veut dire quoi? Il venait de ressusciter d'entre les morts. « Tout pouvoir m'a été donné, puisque j'ai vaincu la mort, plus rien peut m'arrêter. Puisque j'ai vaincu la mort, vous aussi, plus rien peut vous arrêter, parce que en moi, en Christ, vous avez la vie éternelle. La mort n'est plus un obstacle. Prenez courage, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu ce monde. » Et Jean 14, verset 27, très beau passage aussi, très beau verset. Jean 14, verset 27 qui dit « Je vous laisse la paix. » Je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il dit la même chose qu'il est en train de dire à ses disciples. C'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et on peut reprendre ce passage tellement connu, mais tellement riche, dans Philippiens chapitre 4, qui nous parle aussi d'une paix extraordinaire. Vous vous souvenez? Philippiens chapitre 4 qui dit... Verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, c'est difficile. » Mais là, Jésus est en train de dire à travers l'apôtre Paul, « La seule chose pour laquelle tu dois t'inquiéter, c'est de ta vie de prière. » Parce qu'il dit, ne t'inquiète de rien, mais fais connaître, fais-moi connaître tes besoins, mais ne t'inquiète pas. Inquiète-toi de passer du temps avec moi. Oui, ça, oui. Inquiète-toi de ça. Si tu passes pas assez de temps avec moi, inquiète-toi. Mais ne t'inquiète pas pour les circonstances de ta vie. Mais fais-moi connaître tes besoins. Oui, là, oui. Fais-moi connaître tes besoins. Occupe-toi à prier. Quelque part, on pourrait dire, ne te préoccupe pas, mais occupe-toi dans la prière. Fais-moi connaître, sans t'inquiéter. Et moi, je vais te donner ta paix. Ma paix, pardon. Je vais te donner ma paix. Tu vas être en paix. Amen. Amen. Et là, c'est complètement différent. La paix de Dieu, le Dieu de paix, on voit un petit peu que la boucle est bouclée parce que même Philippiens 4, versets 8 et 9, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et après, il dit, et le Dieu de paix sera avec vous. Non seulement il veut nous donner la paix de Dieu, mais le Dieu de paix veut être avec nous. C'est extraordinaire. Il veut qu'on soit dans la paix. dans la paix, au milieu de la tempête. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher de vivre ce qu'on vient de parler ce matin? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de vivre ça? Le fait que Jésus intercède en notre faveur, c'est incroyable. Qu'il intervient dans la tempête et il veut installer sa paix. Il veut faire ces choses-là dans notre vie. Il veut agir concrètement quand on passe par des moments difficiles. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher de vivre ça? Et là, on va le voir au verset 52. Marc 6, verset 52. Qu'est-ce qui se passe à la fin de cette aventure? Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, donc juste que Jésus vient de faire, parce que leur cœur était comment? Leur cœur était endurci, ses disciples. Ils étaient stupéfaits, remplis d'étonnement. Vous savez que ce n'est pas la première fois que Jésus avait calmé la tempête. Chapitre 4, il le fait déjà. Donc on sait que les disciples, ils ont déjà été mis dans cette situation. Et pourtant, leur cœur reste dur. Ils sont toujours dans l'étonnement quand Jésus fait des choses. Alors c'est pas mauvais d'être dans l'étonnement, mais quand Jésus agit dans notre vie et qu'il revient, est-ce qu'on est dans l'étonnement après? Non, on est plutôt dans l'émerveillement, mais on n'est pas dans l'étonnement d'un cœur dur. On est dans l'émerveillement de ce que Dieu vient de faire pour nous. Mais on n'est pas étonné, on n'est pas choqué. Là, ça dit qu'ils étaient stupéfaits et remplis d'étonnement, mais c'est pas très positif comme expression. Ils étaient stupéfaits et remplis d'étonnement, comme des gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie, qui tout d'un coup voient quelque chose. Ça heurte leur incrédulité. Et ils sont stupéfaits, ils sont étonnés, mais ils sont pas encore émerveillés. Et là, les disciples, ils sont pas encore émerveillés, parce que ça dit qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Et une des choses qui peut nous arriver, c'est que notre cœur dur va nous empêcher de vivre ces choses-là. Notre cœur dur. Il n'y a rien de pire que de ne pas laisser Dieu agir dans notre vie et d'endurcir notre cœur à tel point que quand Jésus revient vers nous et quand il nous sort des situations qui sont tellement dures, on va être dans l'étonnement parce qu'on ne croit pas encore qu'il peut revenir le faire. On ne croit pas encore qu'il va revenir le faire. Les disciples, Marc chapitre 4, ils avaient déjà vu Jésus calmer le vent et la mer. Donc s'ils l'avaient déjà vu, pourquoi dans la barque ils se sont pas concertés, ils n'ont pas dit hey, « Hé les gars, Jésus il gère, il arrive, il a déjà calmé la tempête, c'est rien pour lui ça, on va juste se calmer et l'attendre. » Mais ils étaient en train de paniquer. Et ça c'est un avertissement que nous donne la parole de Dieu. Quand Dieu nous a déjà sortis de situation, c'est quoi notre réaction après? Est-ce qu'on est toujours dans l'incrédulité? Est-ce qu'on croit toujours pas que Jésus va revenir quand il nous a sorti de l'épreuve? Est-ce qu'on oublie tellement vite? On oublie. Vous savez comment on appelle cette maladie d'oublier constamment? Ça s'appelle comment? Alzheimer ou aussi l'amnésie, ouais. L'amnésie, on oublie ce que Dieu fait. Voilà. On est des chrétiens amnésiques. Et les disciples, ils étaient amnésiques à ce moment-là. Ils avaient complètement zappé ce que Dieu avait fait déjà, ce que Jésus avait déjà fait. Et ça leur a pas permis de profiter pleinement du secours de Jésus. Même si Jésus les a secourus, ils avaient leur cœur qui était endurci. Endurci. Que le Seigneur nous aide. Et ce matin, je veux juste nous encourager parce que on peut voir dans ce chapitre, dans cette histoire, ce que Dieu fait quand nous, on est dans des moments difficiles. Ce que Dieu fait, tout ce qu'il met en œuvre pour venir vers nous. Il prie pour nous. Son nom est dans sa bouche. Quand on passe par des moments difficiles, il prie pour nous. Il intercède, il vient. Il intervient à 3h du mat et je ne sais pas pourquoi. Parfois, c'est tard pour nous, Mais c'est jamais trop tard pour le Seigneur. Et de 8h du soir jusqu'à 3h du matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut tenir bon. Faut tenir ferme. C'est là où Dieu est en train de nous dire « Prépare-toi, marche avec moi. » Dans la fournaise. « Prépare-toi, j'arrive. Marche avec moi. Attends ma délivrance. » C'est moi qui décide quand est-ce que je vais te sortir de là. Pendant que tu es là-dedans, pendant que tu galères, pendant que tu rames, fais-le en t'attendant à moi. Et c'est pas facile. Mais comme on a dit au début, c'est la seule façon que Dieu peut tester notre foi, peut voir si elle est authentique, peut voir si nous fonctionnons bien en tant que croyants. Est-ce que je fonctionne bien? Est-ce que tu fonctionnes bien? Quand l'épreuve arrive, tout est dit. Tout est révélé. Et je prie le Seigneur pour chacun d'entre nous que quand l'épreuve arrive, parce qu'elle va arriver si elle n'est pas déjà arrivée, et les disciples avaient déjà vécu une épreuve similaire, et pourtant Jésus les remet dans la même épreuve. Et on ne sait pas pourquoi, mais c'est le plan de Dieu. Il voulait encore les enseigner, il voulait les modeler, les faire paraître plus comme lui. Et parfois, quand on sort d'une épreuve, on se dit « Merci Seigneur ». Et on s'imagine pas que peut-être elle va revenir de la même façon. Et les disciples, ils savaient peut-être pas. Sûrement. Mais en tout cas, leur cœur était toujours dur. Donc que le Seigneur nous garde de ça. Hein, parce que lui, il est là, il intercède pour nous, il intervient. Et il veut installer sa paix dans notre vie. Sa paix en toutes circonstances. Dans les bons moments, mais surtout dans les mauvais. Amen. Amen. Donc on va prier ce matin.